Montaigne. Avant de nous demander comment Descartes et Pascal envisagent Montaigne, nous avons à le considérer pour lui-même. Et cela paraît tout simple. Montaigne se décide-t-il pas chargé de la besogne ? C'est moi que je peins, nous dit l'avertissement des essais. Sa vie durant, Montaigne poursuit un dessein qu'il est le premier pourtant à dénoncer comme farouche et extravagant. Pascal même en chérira le sot projet qu'il a de se peindre. Non pas tellement sot, remarquerons-nous à notre tour, que malaisé ou plutôt impossible. Une des originalités des essais, le livre le plus original du monde, et que Montaigne ne cesse de s'en apercevoir à mesure qu'il en développe l'exécution, depuis 1572 environ, jusqu'à sa mort en 1592. Il n'est description pareille en difficulté à la description de soi-même, ni certes, ajoute-t-il, en utilité. Aristote admirait comme le type de la causalité parfaite le médecin qui se soigne lui-même. Rien n'est plus clair. Le médecin connaît le but de son effort, retour à la santé. Il en possède les moyens qu'il applique à son organisme. Mais quand Montaigne déclare ce dessein de se servir de soi pour sujet à écrire, la matière que le moi fournit au moi n'est plus un point simplement de départ. Ce doit être aussi le point d'arrivée. La peinture n'est exacte que s'il y a coïncidence entre le tableau et l'objet. Or, à supposer que cette coïncidence ait effectivement lieu, elle ne pourra être assurée au-delà du moment où elle se produit. Et de quel droit affirmer que ce moment existe, puisque c'est chose mobile que le temps et qui apparaît comme en ombre avec la matière coulante et fluente toujours. Quant à ces mots, présent, instant, maintenant, par lesquels il semble que principalement nous soutenons et fondons l'intelligence du temps, la raison le découvrant le détruit tout sur le champ. Car elle le fend un continent et le part en futur et en passé, comme le voulant voir nécessairement des parties en deux. Ce qui mesure et ce qui est mesuré. L'âme et l'univers sont également entraînés dans une course au néant sans trêve et sans retour. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Je ne puis assurer mon objet. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'âge en autre, ou, comme dit le peuple, de 7 ans en 7 ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Ainsi nous arrive-t-il de nous refuser à nous-mêmes dans les phrases dont nous sommes cependant le sujet. Je fonds et échappe à moi. J'ai des portraits de ma forme de 20 et 5 et de 30 et 5 ans. Je les compare avec celui d'Astur. Combien de fois ce n'est plus moi. Voici qui n'est pas moins grave. Dès lors que peintre et modèle ne font qu'un, comment éviter que le parti pris professionnel du peintre retentisse sur l'attitude du modèle qui, délibérément ou non, prend la pose et par là même risque de rompre l'irrévocable fluidité que nous avions, à juste titre, considérée comme caractéristique de la réalité intérieure. Cette réalité ne serait vraiment nous-mêmes que dans les instants où nous renoncerions à nous dédoubler et cesserions de nous altérer. Je me pars sans cesse car je me décris sans cesse. C'est donc chose vaine d'espérer qu'il nous soit permis de contredire ce qui exprime le trait essentiel de notre vie, de vouloir arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de notre saisie. Le peintre participe à la mobilité du modèle. Si je parle diversement de moi, c'est que je me regarde diversement. L'entreprise profane de Montaigne rencontre ainsi, dès simplement son énoncé, le problème auquel se sont heurtés les mystiques de toutes les époques et de toutes les confessions, dans leur tentative éternellement renouvelée pour écarter la médiation de la conscience réfléchie, pour se rendre capable de décrire autrement qu'en imagination de rêve ce qui serait l'état primitif et pur de l'être. L'essai de l'expérience est curieux à cet égard. Quelques pages après avoir déclaré « Quand je dors », Montaigne rappelle qu'il avait été préoccupé de mordre sur la nuit du sommeil et de l'intégrer à sa durée consciente. « À cette fin que le dormir même ne m'échappa ainsi stupidement, j'ai autrefois trouvé bon qu'on me le troubla pour que je l'entrevisse. » D'autre part, on sait avec quel soin il rassemble les souvenirs d'un évanouissement consécutif à une chute de cheval et de ses premiers sentiments, beaucoup plus approchants de la mort que de la vie. La curiosité des fonctions qui s'exercent au bord de l'âme, l'engage dans l'épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble de suivre une allure si vagabonde que celle de notre esprit, de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes. Mais sa clairvoyance le met en garde contre la tentation dogmatique d'ériger l'inconscient à une sorte de substance transcendante au cours de nos tendances naturelles. Il y a des parties secrètes aux objets qu'on manie et indivinables, signamment en la nature des hommes des conditions muettes, sans montre, inconnues parfois du possesseur même, qui se produisent et éveillent par des occasions survenantes. C'est pourquoi l'hypothèse d'une symétrie si parfaite qu'elle mettrait notre vouloir dans la possibilité de se décider est une fiction sans consistance. Leibniz ne dira pas mieux. Ou à la vue ou à l'attouchement, il y a toujours quelque plus qui nous attire, quoi que ce soit, imperceptiblement. Le sage qui a l'ambition de se connaître devra donc renoncer à la prétention de se reconnaître. Je n'ai vu monstre et miracle au monde plus exprès que moi-même. Il est étrange, il est inévitable que chaque prise de conscience nous fasse apparaître autre à nos propres yeux. Non pas seulement parce que nous nous succédons incessamment, mais selon l'intensité de notre réflexion sur nous-mêmes. De quoi il n'y a peut-être pas lieu de se réjouir. Tout au moins, la question a-t-elle été posée à l'humanité depuis la plainte du vieil Héraclite? L'originalité irréductible de l'instant n'a-t-elle d'autre effet que de nous déconcerter, en déjouant les calculs de la raison, en démentant les lanceurs de l'expérience? Ou correspond-elle à un progrès de création qui s'appuie sur une continuité de durée qui finit par nous donner accès à l'éternité? Tout le mouvement de la pensée bergsonienne dans l'intervalle qui sépare de l'essai sur les données immédiates de la conscience les deux sources de la morale et de la religion est suscité par cette alternative dont Montaigne a déjà plus que le pressentiment. Moi qui me vante d'embrasser si curieusement les commodités de la vie et si particulièrement n'y trouve, quand j'y regarde ainsi finement, à peu près que du vent. Mais quoi, nous sommes partout vent. Et le vent, encore plus sagement que nous, sème à bruire, à s'agiter et se contente en ses propres offices sans désirer la stabilité, la solidité, qualité l'ancienne. L'homme ne serait donc pas satisfait s'il devait demeurer tel qu'il se propose à lui-même sur le plan horizontal de l'immédiat et du passif. S'épiller pour se surprendre, c'est se réfléchir, et l'activité de réflexion atteste l'existence d'une dimension de conscience qui ne se laisse pas réduire à la surface directement observable. Montaigne aura beau dire « Les autres forment l'homme », je le récite. Il n'est pas vrai qu'il se soit mis à écrire simplement dans l'intention d'offrir son portrait à ses amis et voisins. Il s'agissait pour lui de calmer, sinon une tempête intérieure, du moins un remous dont il s'est trouvé secoué à son étonnement lorsqu'il prit sa retraite dans les librairies de Montaigne. L'âme qui n'a point de but établi, elle se perd, mon esprit. Faisant le cheval échappé, il se donne 100 fois plus d'affaires à soi-même qu'il n'en prenait pour autrui. Et il m'enfante tant de chimères et monstres fantasques les uns sur les autres, sans ordre et sans propos, que pour en contempler à mon aise l'ineptie et l'étrangeté, j'ai commencé de les mettre en rôle, espérant avec le temps lui en faire honte à lui-même. La portée de cet aveu se précise encore dans le chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Je suis de moi-même non mélancolique mais songe creux. Il n'est rien de quoi je me sois d'être toujours plus entretenu que les imaginations de la mort, voire en la saison la plus licencieuse de mon âge. La rédaction des essais représente un effort vers une discipline de l'oisiveté. S'obliger et s'appliquer à écrire, c'est fixer une pensée qui risquait de se perdre dans la fuite insaisissable du temps. Une expression durable est nécessairement la base d'un certain ordre. Je sens ce profit inespéré de la publication de mes mœurs qu'elle me sert aucunement de règle. L'œuvre réagit sur l'homme autant que l'homme agissait sur l'œuvre. De là, un amalgame d'une saveur unique. Je n'ai pas plus fait mon livre que mon livre ne m'a fait. Livre consubstantiel à son auteur, d'une occupation propre, membre de ma vie, non d'une occupation et fin tierce et étrangère comme tout autre livre. Chez Montaigne, à côté du peintre qui l'amuse de traduire les jeux mouvants de la lumière intérieure, il y a place pour le sculpteur soucieux de se modeler sur l'idéal qu'il a entrevu, d'accomplir en soi le miracle d'une seconde naissance. On remarquera, écrit Gustave Lanson dans sa pénétrante analyse des essais, combien souvent reviennent ces mots « ordre, règle, règlement, réglé ». Montaigne ne veut pas d'une vie qui aille au hasard, poussée ici ou là par les circonstances et les passions, incohérente en ses évolutions et ses volte-face. Il entend conduire la sienne selon la raison. Lui-même énonce la maxime « Le prix de l'âme ne consiste pas à aller haut, mais ordonnément ». Le demi-échec de l'ambition psychologique serait donc la contrepartie d'une entreprise toute différente, celle dont Socrate, le maître des maîtres, a défini jadis le fondement et la méthode lorsqu'il a interprété dans le sens d'une ascèse morale l'impératif de l'oracle « Connais-toi toi-même ». Ce qui, à chaque page, soutient l'intérêt des essais, ce qui fait de leur apparition un événement décisif de l'histoire humaine, c'est le va-et-vient perpétuel, l'attention constante entre deux façons d'envisager la culture de l'âme, tantôt curiosité spéculative, qui se traduit en confession généreuse et libre. Tantôt exigence de réformes pratiques qui fera sans doute appel à l'introspection, d'autant qu'elle est plus sincère et plus aiguë, mais pour le redressement de la conduite, pour le retour à l'interne santé.